Bonjour, mes meilleurs voeux pour cette fin d'année, et puis que 2007 soit brillant pour vous encore, comme d'habitude. Un grand merci pour les émissions sur Dubaï. Je tiens à signaler que dans le National Geographic de janvier 2007, il y a un reportage photo sur Dubaï, ce qui apporterait des images à la radio, quoi, si on peut dire. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, je n'ai jamais supporté les activités du dictateur irakien, mais malgré tout, je resterai toujours contre la peine de mort. Allez, bravo l'équipe et tous mes voeux. Au revoir.
Salut Daniel, Jacques Lambert à l'appareil. C'est juste une petite info pour te dire que les SDF expulsables, il y en a une bonne centaine, qui ont envahi le Grand Orient de France rue Calais. Et ils se sont installés depuis hier soir 19h30 au premier étage et au rez-de-chaussée du Grand Orient de France, et ils refusent de partir. Voilà. Et pour l'instant, apparemment, il y a un blocus de presse et personne n'en a parlé. Voilà. Salut, j'espère que ça passera. Au revoir.
Oui, bonjour. C'est avec une joie non dissimulée que j'ai appris le décès de Jacques Crosemary. Sans ses abus de confiance et ses recels d'abus de biens sociaux, mon épouse aurait peut-être pu connaître son petit-fils. Merci Daniel, à plus. Voilà, ma mère est morte en 1984. Elle avait 61 ans. Elle avait commencé par faire un cancer du sein, non dépisté. Et puis, elle est morte... Alors, après avoir métastasé d'un cancer généralisé. Elle est rentrée d'abord à l'hôpital d'Oscar Lambret, à Lille. Et je me souviens toujours d'avoir été choqué, ainsi que mon frère et ma sœur. Nous avions reçu indépendamment chacun, n'ayant fait aucune démarche, ni l'un ni l'autre, un courrier de l'ARC. De Monsieur Crosemary. Et nous demandait de cotiser à l'ARC. Notre identité familiale était totalement inconnue de cette association à l'époque. Et à partir du moment que ma mère fut inscrite et admise et soignée à Oscar Lambret à Lille, l'ARC nous avait écrit. C'était assez surprenant que l'on fasse une démarche financière auprès de gens concernés par la santé d'une personne essentiellement proche. Voilà, j'avais envie de dire ça à Monsieur Crosemary, là où il est maintenant. C'était Hervé à Brest. Bonne journée.
Le discours sur la paix. Vers la fin d'un discours extrêmement important, le grand homme d'État trébuchant sur une belle phrase creuse tombe dedans et désemparé, la bouche grande ouverte, haletant, montre les dents. Et la carie dentaire de ses pacifiques raisonnements met à vif le nerf de la guerre. La délicate question d'argent. Jacques Prévert.
Quartier général de l'armée de rébellion non violente. Ordre de mission est donné à tous les volontaires de créer des collectifs pour la paix économique. Je répète, ordre de mission est donné à tous les volontaires de créer des collectifs pour la paix économique. Ces collectifs seront chargés de faire connaître localement la tenue d'un référendum national d'initiative populaire pour ou contre la poursuite de la guerre économique. Je répète, faire connaître le référendum pour ou contre la poursuite de la guerre économique. Sergent insurgé cadet pour l'armée de rébellion non violente.
Salut Daniel, c'est Daniel à Paris et bonjour à tous les AMG. On est jeudi. J'ai eu une angoisse ce matin en écoutant France Inter. Ils arrêtaient pas de dire aux infos qu'il y a 4 millions de chômeurs et pas 2 millions et tout. Tout d'un coup, ils se rendent compte, tu vois, les journalistes, qu'il y a des travaux qui ont été faits par Fabienne Brutus, par Jacques Cotta, par d'autres, et que les chiffres du chômage qui sont donnés sont des chiffres bidons. Mais qu'est-ce qui se passe, les journalistes, là? T'es devenu rédacteur en chef des infos, là, Daniel, ou quoi? Quelle angoisse pour ceux qui te détestent. Si ta secte s'étend aux informations, ils sont mal barrés, hein. Bon, ceci étant, qu'est-ce que j'ai pu rigoler? Mais ce midi, c'était fini, hein. On n'en parlait plus, Crosemary était mort, alors effectivement, c'est quand même plus important. Bon, écoute, voilà, hein. À plus!
Bonjour, je suis tombé par hasard sur un film concernant le général canadien Roméo Dallaire. Et plus j'en apprends sur le Rwanda, plus je me pose de questions. Ce qui m'étonne le plus, c'est qu'il y ait des gens pour me faire croire qu'il y a un débat, du genre, y a-t-il eu ou non génocide ? L'armée française s'est-elle ou non, au mieux croisé les bras, au pire a-t-elle ou non, directement participé au massacre, en armant et en entraînant les miliciens ? Si comme moi vous avez tendance à répondre positivement à ces questions, vous vous étonnerez du fait que personne ne bouge devant l'incroyable tentative par le clan des génocidaires de disqualifier les deux seuls militaires qui aient bravé l'interdiction de l'ONU d'intervenir dans le génocide et ont fait preuve de courage, à savoir le général Dallaire et le colonel Marshall. Le livre de Pierre Péan et la très étrange intervention du juge Bruguière pour soutenir le clan des négationnistes ne laissent pas de me surprendre. Pour reprendre un article lu dans le blog Le Devoir, je dirais que prétendre que sans l'invasion des forces du FPR de Paul Kagame quelques années avant avril 1994 et sans l'attentat contre l'avion du président, le génocide n'aurait pas eu lieu. Ça équivaut à dire que l'avènement au pouvoir d'Hitler, l'Holocauste et la Seconde Guerre mondiale n'auraient pas eu lieu si le traité de Versailles de 1918 n'avait pas été si revanchard à l'endroit de l'Allemagne. Messieurs Péan et Bruguière partent de ce type de constatation pour insinuer que les vrais responsables des massacres rwandais sont les dirigeants du FPR et non les criminels qui les ont perpétrés. Autant dire que le responsable de l'Holocauste n'est pas Hitler, mais bien Clémenceau et ceux qui ont imposé le traité de Versailles. Si ça, c'est pas du négationnisme, alors je n'y connais rien. Deux questions au juge Bruguière. Premièrement, quels intérêts défendez-vous dans cette affaire? Et deuxièmement, quel rapport y a-t-il entre l'incrimination de Paul Kagame et votre nouvelle carrière politique? Merci, au revoir.
Une boîte plein de vœux aujourd'hui, plein de vœux, des vœux frais du jour, des vœux à la coque, des vœux angelés, des vœux mayonnaise, des vœux cornichons. Eh oui, mayonnaise ou cornichon, que choisir? C'est la grande question de l'année nouvelle. Cette année, changement de garniture, faites votre choix, mais ne touchez pas au plat de résistance, ce sera mayonnaise ou cornichon. Changement de gérant, si ça vous chante, mais on ne touche pas au fonds de commerce. Voilà pour l'année prochaine. Alors concernant le Rwanda, là c'est sérieux, attention à l'emporte-pièce. C'est un dossier épineux, c'est un dossier compliqué et qui nécessite de poursuivre le travail d'enquête qui jusque-là reste insuffisant. On est allé souvent au Rwanda, on en a parlé souvent depuis 1994, puisque vous vous souvenez peut-être que nous étions au Rwanda pendant le génocide en mai 1994, il y a 12 ans, mais depuis un certain nombre d'éléments, d'enquêtes, de déclarations, de découvertes, ont mis en cause la version qu'on s'était faite immédiatement de ce drame terrible, terrifiant. Donc prudence et circonspection, vigilance et surtout exigence d'un complément d'enquête et que les dossiers, tous les dossiers, toutes les pièces soient produites et soient accessibles pour les chercheurs et ceci évidemment dans l'intérêt des Rwandais eux-mêmes, bien évidemment. Alors aujourd'hui, Dubaï, la suite, on continue le voyage, le luxe vous plaît, vous y prenez goût, et ce sera, eh ben voilà, notre voyage jusqu'à l'année prochaine, puisqu'on se retrouve lundi prochain, l'année prochaine. D'ici là, encore quelques messages quand même dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37, une boîte pleine de vœux, tout frais du jour.
Salut Daniel, c'est Rémi de Toulouse. C'était pour répondre à un des messages que j'ai entendu sur le répondeur cette semaine, comme quoi il n'y avait aucun auditeur qui était allé à Dubaï, qui s'en foutait, tout ça, tes auditeurs. Donc voilà, justement, j'en reviens, j'y suis allé il y a 15 jours. Je suis resté 3 jours pour le boulot, je bosse dans l'aéronautique. J'ai eu l'occasion de voir tout ça, là, le Burj Al Arab, le Dubaï Ski, The Palm avec les îles et tout ça. Et c'est vrai que j'étais assez surpris, j'ai vu aussi un peu la vie dans Dubaï, dans Bourg Dubaï, c'est là où je logeais. Voilà, mais avec peu de temps, j'ai pas pu tout bien cerner. Voilà, je voulais te remercier pour cette émission, pour ce que t'as fait avec les Pakistanais, les Indiens que t'as interviewés. J'ai bien mieux compris les tenants, les aboutissants de tout ce que j'ai pu voir. Voilà, merci, à bientôt et bonne fête. Ciao.
Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Ici, c'est le repère de l'île de Groix. Nous nous réveillons de notre petit hivernage exceptionnellement pour la fin de l'année. Et le rendez-vous est pour ce soir au bateau ivre, comme d'habitude, qui se trouve au sud de l'île, au bateau ivre à 21h. Donc ce soir, c'est une soirée exceptionnelle. Tous les visiteurs de l'île et les habitants sont invités, bien sûr. Discussion libre autour du thème de l'émission, enfin autour des thèmes de l'émission, mais aussi particulièrement ce soir sur la commune de Oaxaca au Mexique. Grâce aux infos reçues récemment de l'envoyé spécial du repère de Groix, de l'île de Groix même, actuellement sur place dans les Chiapas, en compagnie de deux autres journalistes indépendants ayant vécu le début de la répression sanglante à Oaxaca même, il y a quelques semaines. Voilà, donc venez nombreux et à ce soir, au bateau ivre, sur l'île de Groix. Merci, à bientôt.
Je trouve que pour la dernière émission de l'année, ce serait bien, ce serait sympa si vous passiez la chanson de Loïc Lantoine qui s'appelle « Mais non ». Vous savez, celle qui se termine par « On a résisté, existé, continué tout en fierté ». Mais oui, on va repenser, nous souhaiter bonne année. Mais oui, on va aimer. Mais oui, merci et bonne année. Au revoir.
Mais non. Mais non. Mais non. On a râlé, réclamé, proposé, imaginé. Mais non. On a rêvé, rigolé, espéré. Mais non. Et défilé. Mais non. On a pleuré, supplié, exigé. Et menacé. Mais non. On a parlé, inventé, expliqué. Mais non. On s'est fait chier. Bon non. On nous a nié, renié, étouffé, assassiné. Mais non. On nous a fermé, bâillonné, humilié. Mais non. Éparpillé, mais non. On a résisté, existé, continué, tout en fierté. Mais oui. On va repenser, nous souhaiter bonne année. Mais oui. On va aimer. Bah oui. Mais oui. Mais oui. Bah oui.
On a eu récemment des clients étrangers qui nous ont demandé une bouillabaisse. Donc on a importé en moins de 24 heures tous les ingrédients et préparé pour eux ce plat.
Donc si je veux un cassoulet, c'est possible en 24 heures.
Tout à fait. Tout est disponible, j'ai envie de dire, toute l'année à Dubaï.
Ils acceptent et accueillent tout le monde. Ici, ils nous disent, venez partager notre succès. C'est ce qui fait le succès de Dubaï.
Nous travaillons toute la journée et puis quand nous retournons le soir, on n'a même pas d'eau pour se laver.
Et vous avez à manger quand même.
C'est que ce qu'on nous donne, même les chiens ne vont pas le manger. Même les chiens vont refuser.
Il y a eu beaucoup de mouvements de grève, on nous a parlé d'émeutes récentes.
The recent past, there have been 2-3 strikes, some major strikes.
Oui, au cours des dernières semaines, il y a eu 2-3 grosses grèves.
But a strike in UAE is illegal.
Mais là, il faut savoir que les grèves sont interdites ici aux Émirats Arabes Unis.
Il n'y a pas un modèle au monde qui peut afficher une telle croissance. Donc pourquoi ne pas y croire?
Nous avons laissé nos femmes, nos enfants derrière au Pakistan. Ici, les conditions sont horribles. On n'est pas payé pendant des mois.
Tout marche et tout rapporte. C'est agréable, un petit verre de champagne.
Dubai?
Dubai Inc.
Dubai Incorporated.
Dubai Waterfront. Next generation destination.
Salut, c'est Daniel Mermet, la basse je suis avec Guy Van Til, Dubaï, Eldorado, libéral.
Flight number 2, arriving.
Chantier, là, on l'entend. On l'entend.
Et on se dit qu'il y a des gars qui sont là-haut, dans ces grues. Regardez, les gars qui sont là. Dans ces 15, 20, 20 étages, et qui sont en train de bosser par ce gaillard. Il fait 40 degrés, là. La fille qui nous fait visiter, elle s'excuse. On va être obligé de faire quelques pas à travers le jardin, et ça va être très court. Et c'est un jardin verdoyant avec des jets d'eau et tout. Elle s'excuse de nous faire faire quelques pas à l'extérieur, alors que les mecs passent 10 heures là-haut.
On a ici sur deux étages le spa Givenchy et le hammam oriental au rez-de-chaussée. Au spa, vous avez une sélection de soins de visage, soins du corps, massage, selon les standards Givenchy, je dirais la petite touche française de l'hôtel.
Et là, ici, c'est l'endroit le plus sélect des trois hôtels.
Je dirais que les trois endroits sont sélects. Ici, c'est la partie de l'hôtel la plus petite. On a ici que 50 chambres, donc le service est totalement personnalisé. Déjà, ici, l'architecture est beaucoup plus intime, les plafonds sont plus bas, d'où le nom de cette partie de l'hôtel, la résidence. On voulait que nos clients se sentent chez eux.
Alors c'est que du marbre, des boiseries et des ferronneries.
S'ils se sentent chez eux, ça veut dire que chez eux, c'est quand même déjà assez...
C'est pas mal.
Assez chic. Oh, une vue d'une fontaine, des plans d'eau qui descendent vers une terrasse. Et alors, on voit la mer encadrée par les palmiers, un peu d'air.
Autour de la piscine, chaque client a son propre petit gazebo qui lui est réservé.
Son gazebo, c'est-à-dire ?
Un grand
parasol.
Plus qu'un parasol, c'est une petite maison recouverte en toit.
Voilà, c'est sa petite maison.
Et alors ici, on a une petite touche particulière, c'est que tous nos clients, le concierge va vers eux à la piscine et leur propose toutes les facilités services de l'hôtel au bord de la piscine. Vous avez un nettoyage des lunettes autour de la piscine.
Si vous ne pas se nettoyer ces lunettes, cocktail,
on vous nettoie vos lunettes.
Alors la résidence a un restaurant qui s'appelle le dining room, la salle à manger, où le chef, il a bien sûr un menu disponible, mais vous suggère également d'accommoder les plats selon votre envie, comme à la maison. On a eu récemment des clients étrangers qui nous ont demandé une bouillabaisse, donc on a importé en moins de 24 heures tous les ingrédients et préparé pour eux ce plat.
Donc si je veux un cassoulet, c'est possible en 24 heures?
Tout à fait, tout est disponible, j'ai envie de dire, toute l'année à Dubaï.
Ils étaient contents de leur bouillabaisse.
Ravi.
Ravi. Ravi. Le christianisme a eu ses cathédrales. Le capitalisme a eu ses gratte-ciel, le communisme a eu ses statues, et le néolibéralisme, eh bien, ce sera Dubaï. Dubaï, méga Disneyland, hyper géant, un péplum à Merloc, clinquant, nouveau riche, tapageur, ostentatoire. Voilà. Où nous sommes encore aujourd'hui pour cette balade, où sommes-nous? Oh, on connaît déjà, si vous connaissez Los Angeles, ou plutôt si vous avez simplement la télé. Si vous avez la télé, vous avez déjà vu ce genre de décor avec ce genre de musique. Sauf que là, c'est un peu plus oriental, mais tendance péplum, tendance carte en pâte. Il faut bien dire qu'on est séduit hein, par un dynamisme pareil, ça force l'admiration, ça va vite, ça va haut, tout marche, tout profite. Sauf que, ben voilà, pour quelques-uns qui danse sur le pont au son des saxos et des violons et qui s'en mettent jusque là. Dans la nuit orientale, il y a beaucoup, beaucoup de monde dans la cale, beaucoup, beaucoup de monde dans la soute qui n'a pas beaucoup droit à la parole et qui n'a pas beaucoup de droit du tout. Alors vous vous doutez bien que c'est vers eux que nous sommes allés aussi. Dubaï, mais à quel prix?
Oh no, see their lies, read their fight, see their lies. So we love it, we love it, and then we give you.
Achieved for Dubai is only 10% of my vision for it. A quote from His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Dubai Crown Prince and the architect of many prestigious projects in the Emirate.
Dubai, c'est Dubai Inc. Dubai Incorporated. C'est une grosse société, donc nous contribuons tous à cette société. De la même façon que si je travaillais dans une grosse société en France, je contribuerais à cette société. Donc Dubai devient ma société. Il y a un patron, il y a un directeur général qui est le Cheikh Mohammed, et Dubaï est géré en effet comme une grosse, grosse société.
Voilà, Dubaï c'est l'avant-garde, fini ce fossé inutile entre le politique et l'économique. C'est une ville entreprise. Dubaï, c'est la ville entreprise. Plus besoin de... Vous voyez, c'est le MEDEF qui est au pouvoir. Le pouvoir est au MEDEF. Et puis, n'en parlons plus. Plutôt que de faire semblant, de diviser comme ça les choses. Là, c'est ça la force de Dubaï. C'est que Dubaï est une entreprise. Mais avant de continuer aujourd'hui la balade dans Dubaï et la découverte de Dubaï, je pense qu'il faudrait faire un tout petit peu de géographie très vite pour rappeler où ça se situe, ça. Hein, ces Émirats arabes unis dont Dubaï fait partie, ces Émirats arabes unis font partie de ce qu'on appelle les monarchies du Golfe sur la partie orientale de la péninsule arabique. Il y a ces 5 petits États monarchiques qui sont Koweït, Bahreïn, Qatar, Oman et Émirats arabes unis qui sont plus ou moins très riches, adossés à l'immense Arabie Saoudite. Alors, les Émirats Arabes Unis sont en bordure du Golfe Persique. Autrefois, c'était la côte des pirates. Et en 1820, les Britanniques prennent le contrôle de cette place stratégique. Pourquoi ? Eh bien, pour protéger leur route des Indes. C'est un point stratégique très important. C'est un port face aux côtes de l'Iran. Et les Britanniques se rendent maîtres de ce point crucial. En échange de quoi ? Eh bien, en échange d'une protection des chefs locaux. Nous vous protégeons et nous contrôlons cette place. L'activité à l'époque, c'était la pêche et le commerce des perles, et ça s'est resté jusque au cours de ce siècle. En 1953, découverte de gisements du pétrole à Abu Dhabi, qui est l'un des Émirats arabes unis, et ça bouleverse les choses. On enjambe les années. Les Britanniques finissent par se retirer à la fin des années 60, et en 1971, c'est la création de la Fédération des États arabes unis. Alors comment ça fonctionne ? Il s'agit de monarchie absolue. Les partis politiques sont interdits, les citoyens n'ont pas le droit de vote, toute forme d'opposition est réprimée. Seul, et ça c'est un phénomène tout à fait extraordinaire, seuls 10% de la population des Émirats Arabes Unis sont des nationaux. Les autres sont des travailleurs étrangers qui n'ont aucune chance de s'intégrer. On ne mélange pas les torchons étrangers avec les serviettes nationales. C'est un état-providence parfait pour ces 10% de la population. C'est-à-dire que les Émiratis ont la santé gratuite, l'éducation gratuite. C'est le rêve, c'est l'espèce de communisme réellement existant dans cet hyper-libéralisme, hyper-capitalisme. C'est une forme de réussite, évidemment, pour un tout petit groupe. Parce que pour ces travailleurs étrangers, il y a, lorsqu'ils arrivent pour travailler, retrait du passeport en échange d'une carte qui permet de circuler et de travailler pour certaines entreprises bien précises et pas d'autres, des contrats de travail à durée déterminée et très souvent à courte durée, un refus de l'accès aux droits de propriété. Ça, c'est un petit peu en train de changer, mais jusque-là, les étrangers travaillant ou vivant dans les Émirats Arabes Unis n'avaient absolument pas le droit d'accéder à la propriété. Ensuite, le regroupement familial est absolument interdit à tous ceux dont les revenus sont inférieurs à 1500 euros par mois, c'est-à-dire la grande majorité de ces travailleurs étrangers, même si il y a une catégorie, on en a déjà rencontré, d'expatriés, on dit pas travailleurs étrangers, ce serait péjoratif, mais d'expatriés qui, eux, bien sûr, gagnant plus de 1500 euros par mois, peuvent faire venir leur famille. La majorité de ces travailleurs étrangers, on l'a dit, viennent du sous-continent indien. Comment vivent-ils? On l'a dit dans les émissions précédentes, dans le reportage précédent, et puis ça commence à se savoir à travers le monde. Ils vivent dans des conditions déplorables, terribles, condamnées par tout et par tous, y compris par des grandes organisations internationales de droits de l'homme, de l'Organisation internationale du travail, etc., etc. Et les Émiratis commencent à être un petit peu inquiets de cette histoire parce que, évidemment, c'est mauvais pour leur image, et l'image est toute importante et prépondérante dans cette histoire. Vous avez compris qu'il s'agit de tourisme, il s'agit d'image. Donc, les travailleurs commencent à comprendre que c'est là-dessus qu'ils peuvent essayer de jouer sur ce terrain-là, sur cette image. Comment vivent-ils? Eh bien, c'est pas si facile que ça de le savoir. Ils vivent dans des camps de travail, dans des foyers de travailleurs, pas du tout ouverts aux étrangers et encore moins aux journalistes. Voilà un de ces camps dans lequel nous sommes allés, qui est loin d'être le pire, où les travailleurs nous expliquent, une fois qu'on s'est bien enfermé dans une des chambres où il est prévu de vivre à deux et en fait ils vivent à 6 ou 8 ou 10, quel est le but de leur présence dans ce pays. C'est le même but que beaucoup, beaucoup de travailleurs immigrés à travers le monde.
Many people depending on maybe the village is looking.
Il y a des cas où tout le village compte sur cette personne, dépend de cette personne.
And I was faced the same problem. I guess there is any marriage, there is special occasion. I'm getting so many letters. I have to send everybody, especially in Warnham. I have to send around the whole the village.
Moi, j'ai fait face à cette situation aussi. Chaque fois qu'il y avait des mariages ou des fêtes, surtout la fête de Onam, c'est la plus grande fête des gens du Kerala. Je recevais des douzaines de lettres et j'envoyais de l'argent à pratiquement tous les villages.
Parce que tout le monde te demandait de l'argent.
Yeah, yeah, because they're all depending me, because village is very small and everybody knows me.
Parce que tout le monde me connaissait, le village était très petit et tout le monde dépendait de moi. J'ai contribué au mariage de trois filles.
It's not my relation.
Même pas de ma famille.
And they are thinking, they are seeing in cinema and television, Dubai is a very colorful city. And they are thinking, in village, the people thinking, all of our relatives is working in Dubai, they are living like that. So there is no picture about these camps and these rooms.
Les gens ne connaissent pas la réalité dans les villages. Ils regardent des films où on montre Dubaï d'une manière extrêmement
belle. Flatteuse, scintillante, etc.
Donc, ils pensent que ces personnes vivent dans le luxe.
Toi, tu pourrais.
Si on rentre en Inde, personne ne va nous proposer un travail parce qu'ils pensent ils sont déjà très très riches, ils ont beaucoup d'argent. Ils ont travaillé à Dubaï.
Mais aujourd'hui, toi qui es là depuis un an, est-ce que les gens rêvent de venir à Dubaï toujours?
Oui, tout le monde en rêve. J'ai beaucoup d'amis qui me demandent tout le temps, est-ce que je peux aussi venir? Est-ce que tu pourras me faire venir?
Donc depuis 30 ans, le mythe de Dubaï continue de fonctionner et de faire rêver dans une grande partie de l'Inde.
Yes, that's a problem. Still they are thinking Dubaï is all days.
Ça, c'est un vrai problème parce que les gens continuent à entretenir cette opinion pas très réaliste.
Mais vous n'avez rien fait non plus pour dire la vérité là-bas.
Personne ne nous croit même quand on raconte la réalité. Parce que les gens ont tellement regardé des choses qui vont à l'encontre de ce que nous disons.
Même
avec des amis, quand je leur dis, moi je veux laisser tomber mon travail, trouve-moi quelque chose, ils ne veulent pas me croire, ils pensent que je plaisante.
Alors c'est l'éternelle histoire, la ville lumière, la ville mirage, combien de nos ancêtres, des provinces françaises ont été attirés par la capitale à la fin du siècle dernier, au cours du siècle précédent. L'exode rural, c'était cette ville fascinante, de perdition, etc. C'est le mythe de l'Eldorado, un endroit où les hommes sont couverts d'or. Eh bien, ça marche toujours dans les films. En Inde, on raconte toujours la vie libre qu'on a à Dubaï, la rutilante Dubaï, et c'est fait pour ça. Dubaï, c'est une vitrine qui attire l'argent et qui attire aussi les rêves de tous. C'est comme effectivement une lampe avec comme les insectes qui viennent mourir sur la lampe. C'est tout à fait comparable. Alors que fait le gouvernement indien? C'est une puissance quand même. Cette présence de ces travailleurs si nombreux à Dubaï, évidemment, pour le gouvernement de l'Inde, c'est une façon quand même très très pratique de réduire le chômage très important en Inde. C'est une façon surtout de faire rentrer des devises, parce que ces travailleurs font rentrer des devises, et il faut jamais oublier qu'en matière de relations entre les États n'ont pas d'amis, mais ils n'ont que des intérêts. Alors nous voilà au consulat de l'Inde à Dubaï, où nous rencontrons Monsieur B.S. Moubarak, qui est habilité à recevoir les travailleurs, leurs plaintes et leurs complaintes, et à essayer de régler leur situation dans le cadre de la politique que je viens d'indiquer. Il nous raconte qu'il y a 1,5 million d'Indiens qui vivent dans les Émirats. 70% de ces 1,5 million d'Indiens sont des travailleurs sans qualification, très bas salaire, qui travaillent le plus souvent sur les chantiers et qui effectivement vivent dans des conditions difficiles.
Il y a eu beaucoup de mouvements de grève, on nous a parlé d'émeutes récentes.
The recent past, there have been 2-3 strikes and all major strikes.
Oui, au cours des dernières semaines, il y a eu 2-3 grosses grèves.
But a strike in UAE is illegal.
Mais là, il faut savoir que les grèves sont interdites ici aux Émirats Arabes Unis.
Mais quel est le rôle ici de l'OIT, l'Organisation Internationale du Travail? Est-ce que cette organisation internationale est présente ici?
To my knowledge, they are not signatories of ILO.
À ma connaissance, ils ne sont pas signataires des accords de l'Organisation Internationale du Travail.
Donc, ils ne sont pas astreints à se plier aux règles internationales.
Yeah. But they have their own labor laws, which are fairly good.
Mais ils ont en même temps leurs propres lois du travail qui sont acceptables.
And every country has its own law and order.
Chaque pays a ses propres lois, vous savez.
And when we come and live in this country and work in this country, we have to respect the country's laws.
Quand on vient vivre et travailler dans ce pays, il faut qu'on suive les règles de ce pays.
Alors, quels sont les plus gros problèmes?
Mostly it is wages. Because now what happens is now there are numerous projects here and numerous companies are competing for each project.
Bah, principalement c'est les salaires parce qu'il y a beaucoup de projets de construction en cours ici et donc il y a une compétition très rude entre les différentes sociétés pour avoir ces contrats.
And each contractor, major contractor, has numerous subcontractors.
Voilà, et chacun de ces sociétés qui a ces contrats a plein de sociétés sous-traitantes après.
And also, recently what had happened is the raw materials, steel, cement, everything has gone up in prices.
Ce qui s'est passé aussi récemment, c'est que toutes les matières premières, l'acier, le ciment, le béton, tous les prix ont monté, ont explosé.
And what they are trying to do is the only way where they can gain or cut is the wages of the laborers.
Et la seule variable d'ajustement, la seule endroit où ils peuvent récupérer cette hausse des prix, c'est sur les salaires des ouvriers.
Now all the major companies, even they are trying to account even for minutes of the working or for the wages.
Donc ils essaient de gratter un maximum, mais même les grosses compagnies maintenant sont à compter aux minutes de travail qu'ils peuvent déduire des salaires des ouvriers.
Mais au total, est-ce que ces travailleurs qui viennent de l'Inde, une fois qu'ils ont remboursé les sommes versées aux agences de passeurs, une fois qu'ils ont payé tout ce qu'ils ont à payer, est-ce que finalement, ce qui leur reste n'est pas l'équivalent de ce qu'ils auraient eu là-bas, ce qu'ils auraient eu dans leur pays?
Especially for unskilled laborers, it is not good at all.
Non, en particulier pour les ouvriers qui sont non qualifiés, ce n'est rien de bon.
If you compare the wages of unskilled laborers here and in India, maybe they are getting 25 to 30% less than what they are getting here.
Si on compare les salaires des ouvriers non qualifiés ici en Inde, ils ont peut-être 20-30% de moins qu'ici.
So it is not a big benefit. They are away from their family.
Donc c'est pas un gros bénéfice pour eux puisqu'ils sont allés loin de leur famille.
And they don't get the cheap health benefits that they get in India.
Et ils n'ont pas accès aux soins bon marché qu'ils pourraient avoir en Inde s'ils sont malades.
So many. That is why the resentment is coming now.
Et c'est pour ça qu'il y a un vrai ressentiment qui ressort chez ces ouvriers.
C'est ça. Alors pourquoi est-ce qu'ils viennent quand même alors?
There are two reasons.
Il y a deux raisons à ça.
One is that they think Dubai is gold. Dubai is only they see only in TV, the shopping festivals, Dubai malls, this, that, and all.
Bah déjà, ils ont l'impression que Dubaï, tout est pavé d'or. Ils voient à la télé, ils voient le shopping festival, ils voient ces malls gigantesques.
And they think that they come and take great money back home.
Et ils pensent qu'en venant ici, ils pourront rapporter plein d'argent au pays.
That is the reason they take a loan and they come.
C'est pour ça qu'ils s'endettent pour pouvoir venir ici.
Once they come here, they don't have another choice. They have to repay their debt, and then they get used to this system. They try to repay the debt and they try to make some money and go back.
Et une fois qu'ils sont ici, bah là c'est là où ils sont coincés. Ils n'ont plus qu'à bosser, à trouver leur place, à comprendre comment marche le système pour pouvoir rembourser leur argent et retourner chez eux.
Et ça demande combien de temps le remboursement de l'argent?
Depends on how much loan they take. But I was told by generally when I speak with workers, they say that more than 1.5 years they have to entirely send all the money only to repay the loan.
Bah ça dépend un peu des uns et des autres, mais ce que je vois avec les témoignages que j'ai, c'est que souvent ça prend minimum 1 an et demi juste pour rembourser le frais. Tout l'argent va dans le prêt pendant au moins 1 an et demi. Là, ça c'est une camionnette, ça c'est les camionnettes qui va apporter des ouvriers.
Ah ouais,
la fin de journée du travail.
Camionnette grillagée quand même. Hein. Toi, tu travailles dans quel secteur?
Je travaille avec des câbles.
Mm-hmm. Ça c'est sa carte de travail qui sort immédiatement.
Je viens de Madras, du Tamil Nadu.
Et alors, tout se passe bien?
Rien ne marche.
C'est-à-dire?
Ce mois, je n'ai pas été payé. Je n'ai pas touché mon salaire.
Et pourquoi tu n'as pas touché ton salaire ce mois-ci?
Ils veulent supprimer mon contrat. Parce qu'ils voulaient embaucher d'autres main-d'œuvre qui coûtent moins cher. Alors que j'appartiens à la compagnie, je pensais qu'il allait me favoriser, mais ils veulent plutôt embaucher d'autres personnels et ils veulent annuler mon contrat.
Donc ils veulent te mettre dehors, ils veulent te jeter.
Ils me demandent de rentrer en Inde. J'ai encore un visa qui est valable pendant encore 2 ans, mais ils veulent annuler mon contrat. Nous n'avons aucun droit, nous ne pouvons porter plainte auprès de personne, même si ça fait 6 ans que je travaille ici. Ce que je dis, ça ne compte pas. Ils me demandent de signer, mais je refuse de signer, parce que si je signe, ils vont pouvoir annuler mon contrat.
Est-ce que tu trouves qu'elle est belle, cette ville? Regarde derrière nous, les grands immeubles. Tu trouves que c'est beau, tout ça?
Oui, la ville est belle, mais il y a beaucoup de personnes qui viennent d'ici, qui se font tromper, etc., qui vivent dans des conditions pitoyables, qui n'ont pas d'argent. Ce n'est pas bien gai, tout ça.
Est-ce que tu es fière d'avoir travaillé dans ces beaux immeubles, tout brillant, tout grand, tout beau?
Oui.
Moyennement.
Quand on construit ce genre de bâtiment, il y a plusieurs personnes qui tombent, qui ont des accidents, il y en a qui meurent et tout ça.
One of which is the Dubai Land, a $15 billion mixed-use theme park on nearly 4 billion square feet of land. Dubai, business destination.
Alors voilà, le Dubaï qui fait rêver, le Dubaï touristique, le Dubaï, le grand luxe de Dubaï, avec Monsieur Louis. Il y a beaucoup de Français qui prospèrent et qui tentent leur chance, mais qui arrivent très bien à Dubaï. Hein, si ça vous intéresse, vous pourrez vous adresser, par exemple, à Monsieur Louis, qui est le directeur de l'hôtel Mirage, le bien nommé hôtel Mirage. Et là, il nous reçoit au One and Only, seul et unique.
J'ai eu la chance de faire partie de cette vague d'expatriés qui est arrivée sur Dubaï il y a à peu près 10 ans de cela. Vraiment le Dubaï Inc. Startup, hein, une vraie startup. Peu de gens étaient prêts à miser sur succès. Aujourd'hui, vous-même, vous êtes témoin d'une expansion fabuleuse. On a du mal à croire tout ce que l'on voit déjà construit. On a du mal à croire tout ce qu'on voit à construire. Et vous l'avez vu, hein, la cité internet, médias, loisirs, médical, investissement, real estate, toutes les sportives, toutes les facettes, toutes les recettes à succès observées dans le monde entier sont aujourd'hui...
Toutes les recettes à succès, c'est ça. C'est-à-dire que, en fait, ils s'inspirent de tout ce qui marche dans le monde.
Voilà. Vous avez derrière vous une maquette qui s'appelait Dubai Marina, qui a été lancée il y a 3 ans. Elle comprenait 70 gratte-ciels, entre 40 et 60 étages. Vous comptez aujourd'hui, ce n'est plus 70 gratte-ciels, ce sont 100. Essayez d'acheter un appartement aujourd'hui, vous avez du mal. C'est ça qui est surprenant. Même moi, pour mon hôtel, parce que nous hébergeons tous nos cadres, je suis en liste d'attente. Donc, tout ce qui a été fait depuis 10-15 ans marche. Pourquoi ce qui est annoncé pour les 10-15 prochaines années
ne marcherait pas?
Moi, je retire mon chapeau. Parce que regardez le succès. Parce que tout ce qui se fait aujourd'hui, tout ce qui a été ouvert depuis 5, 8 ans, 10 ans que je suis ici, tout marche et tout rapporte.
Welcome to the world. Dubai Waterfront. Next generation destination.
Alors vous avez bon, la chance, la clientèle, vous avez donc pratiquement 500 chambres et vous avez plus de 1000 employés. Donc vous imaginez déjà le facteur employé-client. Vous êtes gâté. Vous
êtes employés par chambre.
Vous êtes bichonné. Si le mot est toujours bon. 8 restaurants. Donc les gens ont vraiment un choix merveilleux sur le plan culinaire. Hammam oriental extraordinaire. Là, c'est un petit moment de rêve. Ce qui est merveilleux, vous avez vu, c'est cette façon élégante d'intégrer une touche locale sans qu'elle soit
ostentatoire. On s'y sent bien, on s'y sent confortable.
Et vos projets alors ?
On ouvre un petit boutique, hôtel fantastique sur l'île Palmier, la fameuse île Palmier, qui est en face, avec 10 villas et une petite marina privée, côté un petit peu Riviera, Portofino, VIP. Et nous allons construire un petit ponton sur notre plage, et les clients, avec de très beaux bateaux, peut-être style Riva, emmèneront la clientèle d'un hôtel à l'autre. C'est agréable, un petit verre de champagne.
Alors là, on rencontre un autre travailleur là qui est avec sa brouette, sa vieille brouette, et il a un bleu de travail. Tu nous dis que ça fait 20 ans que tu es là ?
Oui, comme je voulais me rendre compte. Basta que à cause de Basta.
Je n'arrive
pas à rien économiser.
Je dépense 300 dirhams.
400, 300 Basta.
Et puis après, il me reste encore 300, 400 dirhams. C'est tout par mois.
Ouais.
Ça fait même pas 75 euros.
Il te reste 75 euros pour vivre chaque mois.
Je n'arrive pas
à... Là, dans quelle compagnie tu travailles là maintenant ? Tu es avec ta brouette et ton tonneau et ton bleu de travail ?
Al Badr Ghali.
Je travaille pour la compagnie Al Badr.
Et ton boulot, c'est quoi ?
Amara, je suis plutôt de gamme.
Je travaille dans l'acier, steel fitter, dans les tuyaux.
Mm-hmm. Tu es de quelle région ?
Rajasthan.
Je suis du Rajasthan.
Rajasthan. Jaipur.
De Jaipur.
Alors, au bout de 20 ans ici, qu'est-ce que tu te dis ? Tu as eu raison de venir, que c'était bien ou bien que c'était... tu t'es fait piéger ?
Jo mazdoor aadmi hai na, wo phasa hua hai. Jo officer aadmi hai na, uske maza hai rehne ka. Bibi bache ke saath rehta hai, achhi pagar hai wo log ka.
Tout ce qui est main d'œuvre, c'est vraiment, ils sont tous piégés, ils se sentent piégés.
Ouais, c'est ça.
Les gens qui sont fonctionnaires, qui sont responsables, qui travaillent dans les bureaux, ils sont bien parce qu'ils vivent en famille, etc. Eux, ils sont bien.
Comme ceux qu'on voit là qui sortent de la voiture et qui sont deux petits pépères. Alors, bien souriants, bien rondouillards, et pour qui les choses se passent bien. Mais ça, c'est la petite middle class indienne qui s'est installée ici à Dubaï et qui était venue des fois souvent avec un peu d'argent ou avec un peu de diplôme ou avec un peu de formation et qui a fait son trou ici. Mais ça représente pas plus que 30% du nombre total des Indiens qui sont dans les Émirats. 70% en fait des Indiens des Émirats sont comme notre ami, se sont fait piéger les uns derrière les autres. Ils continuent de se faire piéger. Une fois arrivés ici, ils s'aperçoivent qu'ils peuvent pas repartir, donc ils restent. Et puis aujourd'hui, ils se demandent s'ils ont raison ou non d'être restés. Quoi. C'est l'envers du miracle. Alors vous ici, parlez-nous de vous.
Nous, c'est la compagnie One and Only. Nous sommes arrivés ici il y a 8 ans de cela. Il n'y avait rien autour de nous, hein, que du sable. Le mythe, c'était un mirage se créer au milieu de ce désert de Dubaï. 3 ans après, nous avons construit 2 autres hôtels. Donc celui-ci où nous sommes aujourd'hui s'appelle le Palace. Nous avons après construit l'Arabienne Courte qui fait 175 chambres. Et au milieu de tout ça, un très beau petit bijou qui s'appelle la résidence et son spa Givenchy. Donc un petit complexe hôtelier maintenant de presque 500 chambres.
Au total 500 chambres, voilà. Remplies à l'année à
80... à 90%.
À 90%.
Une belle année à Paris, 70%.
Alors qui vient là ?
Notre clientèle est principalement touriste, touristique, européenne à 90%. J'ai presque envie de dire Dubaï devenant peut-être le Miami régional. Il pleut seulement peut-être jamais, 2-3 fois par tous les 3 ans peut-être. Donc vous avez un soleil garanti, vous le voyez, pas un nuage depuis peut-être plus de 3 mois.
Alors parlez-nous de prix quand même, parce qu'on se dit que c'est merveilleux et tout, mais combien ça coûte tout ça ?
C'est assez raisonnable sur le
plan. Bien sûr, vous n'allez pas me dire que c'est trop cher.
Non, vous prenez par exemple le Palace et la Arabienne Courte, on parle d'une moyenne de 400 à 450 dollars, ce qui vous fait 350 euros. Et la résidence est un peu plus exclusive à 700 euros. Mais ça, c'est en haute saison. Vous avez après une saison qui est aussi très agréable, qui est celle de maintenant, qui est mai, juin, juillet, août. Peut-être un peu chaude,
oui.
Mais les piscines sont rafraîchies. Hein. On garde les piscines.
Vous mettez des glaçons.
Presque. Nous rafraîchissons les piscines qui sont tenues toujours entre 26 et 27 degrés.
C'était Là-bas si j'y suis, à Dubaï, avec Guy Vanctil et Daniel Mermet. Traduction Padma Natarajan, à la technique aujourd'hui, Julien Dumont et Thomas Robin. Réalisation Coy Nguyen et Raphaël Mouterde. Assistante Pascal Pascariello. Chef du répondeur Christophe Imbert. Le répondeur de Là-bas si j'y suis, 01 56 40 37 37. Fax 01 56 40 41 07. L'email de Daniel Mermet, daniel.mermet@radiofrance.com. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تكون لنا لله بابا مسدودا وأنا داره جابا مسدودا وعلى آله وصحبه وسلم. Astaghfirullah. Il est 16h.